Merci d'écouter RFI. Il est 13h en temps universel, 14h ici à Paris.
RFI Midi. Anne Cantner.
Et 5h du matin à Los Angeles, où des incendies sont toujours hors de contrôle, des scènes de chaos ont été observées durant les évacuations ordonnées par les autorités. Ce sont aux habitants d'Hollywood maintenant de quitter leur maison. Plus de 1500 bâtiments ont été détruits. En 2 jours, nous appellerons notre correspondant dans quelques minutes. On vous parlera aussi dans ce rendez-vous d'Haïti et des Amériques de l'immense gisement de gaz Camisea qui se trouve au Pérou, en pleine forêt amazonienne. Et puis l'actualité des Outre-mer, comme chaque jour, Benoît Ferrand, vous nous parlerez tout à l'heure de ce contrat territorial de prévention et de sécurité. Première évaluation hier en Martinique.
Oui, premier bilan, 1 an après sa signature, la lutte contre la délinquance et le trafic de stupéfiants. Nous entendrons le président de l'Association des maires de la Martinique.
À tout à l'heure. Mais d'abord, c'est le journal, l'essentiel de l'actualité. Bonjour Victor Missistrano.
Bonjour Anne, bonjour à tous.
Et on commence par cette information tombée il y a une vingtaine de minutes. Le Liban a un nouveau président.
Oui, vers la fin de 2 ans de vacances du poste, les députés ont élu Joseph Aoun, le commandant en chef de l'armée, pour succéder à Michel Aoun, avec qui il n'a aucun lien de parenté et dont le mandat s'était terminé en octobre 2022. Je vous propose tout de suite de prendre la direction de Beyrouth, retrouver Paul Khalife. Bonjour Paul, Joseph Aoun est finalement parvenu à recueillir le nombre de voix nécessaires de la part du Parlement.
Oui, Victor, 99 voix sur les 128 députés du Parlement. Et c'est le changement de position des 27 députés chiites répartis entre le Hezbollah et son allié, le mouvement Amal, du président du Parlement, Nabih Berri, qui a permis de sortir de l'impasse. Lors du premier tour, les députés chiites avaient déposé dans l'urne un bulletin blanc. Mais dès la suspension de la séance, le chef du bloc parlementaire du Hezbollah et un député proche de Nabih Berri ont rencontré Joseph Aoun pendant près d'une heure. Une rencontre qui s'est soldée par l'élection du chef de l'armée au poste de président de la République. Le déroulement des faits ne signifie pas que Joseph Aoun doit son élection exclusivement aux chiites. La candidature du chef de l'armée était souhaitée, soutenue par les États-Unis, les pays occidentaux et l'Arabie saoudite. Les partis chiites n'avaient pas vraiment la possibilité de bloquer son élection sans être en porte-à-faux avec une grande partie des forces politiques du pays et de la population. Lors de l'ultime rencontre, ils ont essayé d'obtenir des précisions sur les intentions de Joseph Aoun et demandé des garanties sur le fait qu'il placera en tête de ses priorités le retrait israélien du sud du Liban et la reconstruction des zones dévastées par la guerre.
Paul Khalife, merci pour ces précisions. Nous reviendrons dans nos prochaines éditions sur cette élection d'un nouveau président au Liban.
Une question aussi dans ce journal. Quel avenir pour le groupe de Rammstein qui regroupe les alliés de l'Ukraine?
La 25e rencontre de ce type réunit aujourd'hui cette cinquantaine de pays sur la base américaine de Rammstein, donc en Allemagne, depuis le déclenchement de la guerre par la Russie il y a bientôt 3 ans. Ce format a contribué à coordonner l'aide pour l'Ukraine. Il s'agit aujourd'hui de la dernière réunion avant le retour au pouvoir de Donald Trump aux États-Unis. Le président ukrainien a fait le déplacement pour l'occasion. Nous retrouvons Pascal Thibault, notre correspondant à Berlin, pour en parler. Pascal, Volodymyr Zelensky a pris la parole à son arrivée.
Oui, effectivement, et à 11 jours du retour au pouvoir de Donald Trump, le président ukrainien a estimé qu'un nouveau chapitre s'ouvrait. Il a parlé d'une période d'opportunité. On se rappelle que Donald Trump avait dans le passé promis de mettre fin au conflit en Ukraine en 24 heures, une affirmation avec laquelle le futur hôte de la Maison-Blanche a entre-temps pris ses distances. Volodymyr Zelensky, qui avait rencontré Donald Trump début décembre à Paris, a estimé à Rammstein qu'un éventuel déploiement de troupes occidentales dans son pays aiderait à forcer la Russie à la paix, une proposition dont la mise en pratique reste aujourd'hui hypothétique. Le président ukrainien Zelensky est sous pression. Lundi, c'est Emmanuel Macron qui a appelé Kiev à mener des discussions réalistes sur les questions territoriales pour trouver un règlement en conflit. Et même la Pologne, soutien fidèle de Kiev, a ouvert la porte par la voix de son ministre des Affaires étrangères à des concessions territoriales. Et puis, dernière information concernant cette rencontre d'aujourd'hui, la décision de l'administration Biden, représentée par le secrétaire d'État, le secrétaire à la Défense, qui a annoncé sur la base américaine une nouvelle aide militaire de son pays de 500 millions de dollars avec notamment des missiles pour la défense antiaérienne ukrainienne.
Les explications en direct de Pascal Thibault, correspondant d'RFI en Allemagne. La première ministre danoise va réunir les chefs de parti ce soir, Mette Frederiksen, qui compte informer des mesures prises après les propos de Donald Trump, le président élu des États-Unis, qui martèle sa volonté d'annexer le Groenland, territoire autonome du Danemark. La Russie, de son côté, dit suivre de très près l'évolution de la situation dramatique, selon le porte-parole du Kremlin. Autre déclaration, celle de Giorgia Meloni, au cours de sa conférence de presse annuelle. Les États-Unis n'annexeront ni le Groenland, ni le canal de Panama, la chef du gouvernement italien qui a rendu visite samedi au président Donald Trump en Floride.
Les États-Unis ou une partie de la Californie est toujours sous les flammes. De terribles incendies sévissent autour de Los Angeles.
Oui, ils menacent désormais le quartier d'Hollywood, dont les habitants ont été sommés d'évacuer. Au moins 5 personnes sont mortes. Bilan qui pourrait encore s'alourdir. Près de 2000 bâtiments ont été détruits et plus de 100 000 habitants de la mégapole américaine ont été forcés de fuir les flammes. Igor Strauss, bonjour. Les images sont impressionnantes.
Et ouais, d'immenses flammes qui s'élèvent dans les airs, des panaches de fumée noire et des rafales de vent soufflant jusqu'à 160 km/h qui transportent des braises sur des kilomètres. Mardi, un premier incendie s'est déclaré dans les collines du quartier UP de Pacific Palisades, mais depuis, bien, les foyers se sont multipliés à la faveur de bourrasques comparables à un ouragan. La ville d'Altadena ressemble aujourd'hui à une zone de guerre avec des bâtiments encore en feu et des habitations réduites en cendres. Sécheresse et vent violent, les conditions météorologiques en Californie rendent la lutte contre les flammes particulièrement difficile. Plus de 7500 soldats du feu sont mobilisés, mais pour le chef des pompiers du comté de Los Angeles, eh bien, leur nombre est largement insuffisant. Les Californiens ont été invités par les autorités à économiser l'eau, car 3 réservoirs alimentant des bouches d'incendie ont été vidés par le combat contre les flammes à Pacific Palisades. Le président Joe Biden a déclaré l'état de catastrophe majeure en Californie, débloqué des aides fédérales pour accroître la lutte anti incendie. Son successeur, Donald Trump, répand quant à lui de fausses informations, mettant en cause la politique environnementale des démocrates.
Igor Strauss du service environnement d'RFI, merci Igor pour ces précisions. Le Venezuela, toujours sous tension à la veille de l'investiture de Nicolas Maduro, le président dont la réélection est contestée dans le monde entier. Aujourd'hui, l'opposition appelle à se rassembler. Les arrestations d'opposants politiques se multiplient. Notre correspondante Alice Campagnon nous expose la situation dans la capitale vénézuélienne.
La ville de Caracas est quadrillée par les forces de l'ordre, militaires et policiers, mais également par des civils armés pro-gouvernement. Idem pour le reste du territoire. Quant aux frontières, elles sont plus surveillées que jamais, car Edmundo González, le candidat qui revendique la victoire à la présidentielle, désormais exilé, a promis de rentrer dans son pays le 10 janvier pour y prendre le pouvoir. Alors le gouvernement hausse encore une fois le ton et les arrestations arbitraires se multiplient. On écoute Oscar Murillo de l'organisation de défense des droits humains Prover.
Les Vénézuéliens sont allés voter le 28 juillet avec l'espoir de démarrer un processus de restauration démocratique. Et quelle a été la réponse ? Plus de répression, du terrorisme d'État qui cherche à inhiber l'expression de la société sous toutes ses formes.
Carlos Correa de l'ONG Espacio Público, Enrique Márquez, ancien candidat à la présidence, ainsi que le beau-fils d'Edmundo González, ont tous été arrêtés mardi par des hommes cagoulés. Aucune information sur leur lieu de détention n'a été révélée. Ce sont les méthodes des autorités actuelles. Dans ces conditions, difficile de savoir si les Vénézuéliens répondront nombreux à l'appel au rassemblement de l'opposition aujourd'hui. Alice Campagnol, Caracas, RFI.
Et j'ajoute que le parti au pouvoir prévoit d'organiser lui aussi une marche en soutien à Nicolas Maduro. Enfin, je vous rends la main, Anne Cantner.
Merci Victor Missistrano. Nous sommes sur le continent américain durant les 20 prochaines minutes et on va d'abord prendre la direction de la Californie aux États-Unis.
RFI Midi, l'actualité d'Haïti et des Amériques.
De deux jours de cauchemar, écrit le Los Angeles Times, mais la ville n'en a pas fini et se prépare encore à plusieurs journées d'incendie. Des vents très forts, vous pouvez l'entendre, des flammes immenses qui ont déjà fait des dégâts considérables, laissé des centaines de personnes sans abri et causé la mort de 5 personnes. Nous sommes en ligne avec notre correspondant Guillaume Nodin en direct de Washington. Guillaume, les autorités avaient ordonné il y a quelques heures l'évacuation de Hollywood. Il est 5 heures du matin, un peu plus, là, à Los Angeles. Où est-ce qu'on en est au tout début de la journée ?
Comme vous le disiez, Anne, le dernier bilan fait état de 5 morts. Le feu est alimenté par des vents violents et secs qui le rendent difficilement contrôlable par les pompiers. Ces vents ont légèrement baissé en intensité ces dernières heures, ce qui donne un petit peu d'espoir et de répit aux combattants du feu. Mais il reste important, ces vents, et ils pourraient reprendre de la vigueur au cours de la journée. Sur place, le quartier de Pacific Palisades, un quartier chic connu pour abriter de nombreuses stars entièrement brûlées. Cet incendie est déjà le plus destructeur de l'histoire de la ville en nombre de bâtiments détruits. Hier soir, le feu a atteint les collines situées au-dessus du célèbre quartier de Hollywood qui a été évacué. C'était à quelques centaines de mètres en fait, de Hollywood Boulevard. Les flammes menacent également Pasadena. Ce sont 130 000 personnes qui ont été évacuées. La maire de Los Angeles, Karen Bass, qui était en visite au Ghana, est revenue dans sa ville. Hasard du calendrier, Joe Biden y était en déplacement hier. Le président s'est rendu auprès des pompiers. Il est désormais de retour à Washington où il doit prononcer aujourd'hui l'éloge funèbre de l'ancien président Jimmy Carter. Mais le président a annulé son voyage en Italie qui devait être le dernier déplacement à l'étranger de son mandat. Il reste pour superviser la réponse fédérale aux incendies.
Guillaume Nodin en direct de Washington. Ces incendies hors normes, ils font bien sûr aujourd'hui encore la une de toute la presse aux États-Unis. Que vous avez lu pour nous, Christophe Paget, lu et vu, car les journaux font une large place aux photos très impressionnantes.
Oui, un mur de flammes alimenté par les vents consume les enclaves de LA, titre le New York Times, au-dessus d'une photo du quartier de Pacific Palisades, une photo d'arbres tordus par les vents ou en feu. Une photo rendue orange, un orange intense par la lueur des flammes. Le New York Post résume la situation. L.A., jeu de mots sur hell, enfer, L.A., Los Angeles. Apocalypse Los Angeles, renchérit le Washington Post. Hier soir, deux nouveaux feux sont apparus, dont l'un a provoqué, écrit le L.A. Times, des évacuations chaotiques près du quartier d'Hollywood. Deux feux sur lesquels ont été envoyés des pompiers déjà épuisés, souligne le quotidien.
Des pompiers qui ont manqué d'eau pour combattre les incendies.
À 3h du matin mercredi, tous les réservoirs d'eau du quartier de Pacific Palisades étaient à sec, ce qui, écrit le LA Times, a réduit le débit des bouches d'incendie situées en hauteur. La demande était énorme dans le quartier, 4 fois plus que la normale, ce qui a fait baisser la pression de notre système, a expliqué le directeur général du département de l'eau et de l'électricité de Los Angeles.
Pas assez d'eau ? Mais c'est suffisant pour que le président élu déclenche une polémique. Donald Trump a fait porter la responsabilité au gouverneur démocrate de Californie, Gavin Newsom.
C'est vraiment très triste car j'ai essayé de convaincre Gavin Newsom de laisser l'eau arriver sur place. Mais il l'envoie dans le Pacifique pour sauver un petit poisson appelé l'éperlan qui vit en plus ailleurs. Et à cause de cet éperlan, ils n'ont plus d'eau. Les pompiers n'avaient plus d'eau dans leur lance à Los Angeles, ce qui est une situation terrible.
Une provocation de plus de la part de celui qui prendra dans 10 jours les rênes du pays. Une polémique qui désole le principal mis en cause, le gouverneur de Californie, Gavin Newsom.
Je ne trouve même pas de réponse à cela. Les gens doivent littéralement s'enfuir. D'autres ont perdu la vie. Des enfants ont perdu leurs écoles. Des familles sont réduites en cendres. Des églises sont parties en fumée. Et lui, il cherche à politiser tout cela. Je pense à beaucoup de choses que je voudrais dire, mais je ne les dirai pas. J'étais aux côtés du président des États-Unis aujourd'hui et j'étais fier d'être avec Joe Biden. Il a le soutien de toute la communauté ici. Et il n'a pas essayé de faire de la politique ou de nous diviser.
Autre polémique, les embouteillages monstres observés à Los Angeles, Christophe. De très nombreux véhicules ont été bloqués au moment d'évacuer.
Le New York Times parle d'une évacuation catastrophique en préparation depuis des années. Les habitants de Pacific Palisades demandent depuis longtemps que l'on accorde plus d'attention à la préparation aux incendies qui frappent la région avec une fréquence et une férocité de plus en plus grandes. Une résidente interrogée par le quotidien rapporte qu'à une réunion, on leur a dit que les itinéraires d'évacuation devraient être déterminés au moment de l'incendie. Résultat, des résidents qui tentent de fuir les feux et se retrouvent bloqués dans des voitures qu'ils doivent finalement abandonner et qui seront à moitié détruites par les bulldozers venus libérer le chemin pour les équipes de secours.
« Ce jeudi est une journée de manifestation au Venezuela à la veille de l'investiture de Nicolas Maduro. Le président doit prêter serment pour un troisième mandat, très contesté, puisque l'opposition clame toujours sa victoire à la présidentielle de juillet dernier. D'ailleurs, sa chef de file devrait même sortir de sa clandestinité pour l'occasion. Et en fait, Christophe, il y aura deux marches, car les partisans du pouvoir, eux aussi, ont prévu de défiler.
En tout cas, hein, c'est fini. Demain, nous nous serrons tous dans nos bras. C'est ce que veut croire la chef de l'opposition, Maria Corina Machado, reprise par El Nacional. El Nacional qui écrit dans son éditorial « Il est temps de nous engager jusqu'à la moelle de nos os à changer de politique ». À reconnaître ce qui s'est passé le 28 juillet, jour de la présidentielle, à restaurer la démocratie, à faire fleurir la liberté. Mais au Venezuela, écrit Tal Cual, la reconquête de la démocratie semble plus un idéal lointain qu'une réalité atteignable. Tal Cual qui, dans son éditorial, rappelle quand même que le destin n'est pas écrit. Pendant ce temps, rapporte Ultimas Noticias, la vice-présidente du Venezuela affirme que l'opposition s'est associée à des réseaux internationaux de trafiquants de drogue, de pédophiles et d'assassins qui distillent la saleté pour continuer à nuire au pays.
Christophe, vous restez avec nous, on va vous retrouver dans quelques minutes à Caracas, il est 9h15, une heure de moins à Port-au-Prince et nous sommes en ligne avec Haïti comme chaque jeudi. Bonjour Franz Duval.
Bonjour Anne.
Rédacteur en chef du grand quotidien Le Nouvelliste, vous parlez dans votre édition du jour d'un problème récurrent, quotidien, c'est la difficulté à trouver de l'argent quand on n'est pas dans la capitale.
Effectivement, c'est un casse-tête de trouver du cash et le cash est essentiel en Haïti pour fonctionner, particulièrement dans la ville de province où il n'existe quasiment pas de forme de paiement alternatif. Haïti aujourd'hui a une difficulté, c'est que les routes principales sont bloquées. Le cabotage est attaqué, les bateaux sont attaqués en mer et il n'y a pas de circuit aérien qui relie la capitale et les autres villes. Conséquence, la Banque de la République d'Haïti, comme les banques commerciales, ne peuvent pas transférer des montants importants en cash aux banques de province. Et en province, on a un rationnement sur les retraits qu'on peut faire. On ne peut pas sortir autant de gouttes que l'on veut de son compte en banque. On doit passer des heures dans des lignes avant d'accéder à cet argent. Et c'est la même chose pour la monnaie américaine, qui est l'autre devise qui circule en Haïti. À peine si on peut recevoir 100 dollars américains par jour et par compte, parce qu'il n'y a pas de cash. Il n'y a pas de cash et les gens ont besoin de cash.
Et vous écrivez que ça n'est pas mieux pour les transferts d'argent.
Ah non, du tout, du tout. Les transferts d'argent et les transferts électroniques d'argent, cela ne va pas mieux. Plus de 4 milliards de dollars que la diaspora a transféré en Haïti l'année dernière. Une bonne partie est pour des parents, pour des proches en province. Et la difficulté est la même. On doit passer des heures et des heures dans des lignes interminables. Et dans certains cas, on doit même payer pour recevoir son argent. L'expéditeur a payé pour faire arriver l'argent à Port-au-Prince ou bien en province. Et on doit encore payer pour maintenant recevoir l'argent parce qu'on vous dit très vite, il n'y a pas de cash. Les opérateurs, comme les banques, gèrent le peu de cash qui est disponible en inventant toutes sortes d'obstacles pour les clients.
Franz, on a beaucoup parlé ici de la crise politique en Haïti, des dissensions au sein du Conseil présidentiel de transition. Il y en a une nouvelle illustration puisque tous les signataires de l'accord qui a conduit à la création de ce Conseil devaient en principe envoyer des idées, des pistes de sortie de crise à l'organisation régionale CARICOM. En fait, ils sont trois seulement à l'avoir fait, mais ils proposent un certain nombre de changements pour plus d'efficacité.
Alors, il faut dire qu'il n'y a que trois secteurs à avoir écrit à la CARICOM. Il y en a neuf qui sont représentés au sein du conseil présidentiel de transition. Ce n'est même pas la majorité. Ils ont fait beaucoup de propositions, trois propositions différentes, avec des pistes de solutions qui vont dans un sens comme dans l'autre. Et pour le moment, les Haïtiens regardent tout ça d'un œil inquiet parce que le CPT ne fonctionne pas bien. Il y a des présomptions d'accusations de corruption sur certains membres du CPT. L'efficacité n'est pas là, mais en même temps aussi, on constate qu'il n'y a aucune espèce d'unanimité et même de cohérence entre ce qui se passe au sein des secteurs qui avaient délégué des membres au sein du CPT. Et on regarde tout ça, on se dit qu'on n'est pas sorti de l'auberge et que l'année 2025 va être compliquée non seulement au niveau sécuritaire, mais encore une fois au niveau politique. La cohérence et la bonne gouvernance ne sont pas au rendez-vous.
Franz Duval, rédacteur en chef du quotidien Le Nouvelliste. On vous retrouve jeudi prochain ici sur cette antenne. Et d'ici là, on peut vous lire sur votre site lenouvelliste.com.
RFI, la radio del mundo.
Sur le continent américain comme en Europe, les dernières déclarations impérialistes de Donald Trump ont beaucoup déplu. que ce soit sur le Groenland ou sur le canal de Panama. Et puis, il y a autre chose. Lors de cette même conférence de presse, il y a 2 jours, Donald Trump avait fait part de son souhait de renommer le golfe du Mexique, disant lui préférer le joli nom de golfe de l'Amérique. Voici la réponse de la présidente mexicaine.
Les Nations Unies valident ce nom de golfe du Mexique, mais pourquoi ne pas appeler le continent America Mexicana? Ça sonne bien, non? Bien sûr que oui. Depuis 1606, la Constitution d'Apatzinga parle d'America Mexicana. Donc gardons ce nom America Mexicana.
Provocation contre provocation, la réponse ironique de Claudia Sheinbaum au propos de Donald Trump et au Brésil. Ce sont des partenaires de Donald Trump, les patrons des réseaux sociaux qui font la une de la presse, que l'on lit avec vous, Christophe Paget. Les journaux brésiliens reviennent longuement sur l'annonce du groupe Meta d'abandonner son programme de fact-checking. C'est un programme indépendant.
Oui, on s'en souvient, l'an dernier, un juge de la Cour suprême brésilienne avait ordonné la suspension du réseau X pour non-respect de décisions judiciaires, décisions réclamant notamment la suspension des comptes soupçonnés de désinformation. Le président Lula a réagi aux déclarations de Mark Zuckerberg, rapporte Estadao. « Nous ne tolérerons pas les discours de haine et de fausses nouvelles qui mettent en danger la vie des gens et incitent à la violence contre l'état de droit », comme celle du 8 janvier lorsque le Brésil avait fait face à une tentative de coup d'État. O Globo annonce que le gouvernement va prendre davantage de mesures contre la désinformation. Le tribunal électoral prévoit une judiciarisation accrue. Dans un éditorial, Estadao estime que Mark Zuckerberg n'a fait qu'exposer un dilemme politique fondamental au Brésil. La question qui se pose à la société brésilienne n'est pas seulement de savoir comment réglementer les réseaux sociaux, il s'agit de savoir qui a la légitimité de le faire.
Christophe Paget pour la revue de presse, à retrouver comme chaque jour sur notre site internet RFI.fr.
RFI Midi, l'actualité d'Haïti et des Amériques.
Gros plan maintenant sur l'un des plus grands projets gaziers en Amérique latine, Camisea. C'est un gisement de gaz dans le sud-est du Pérou, au cœur de la forêt amazonienne. Chaque année, le consortium de 6 entreprises qui exploitent les lieux en extrait près de 14 milliards de mètres cubes de gaz. Et si, il y a 20 ans, le projet était présenté comme la marque de l'indépendance énergétique du pays, aujourd'hui, on constate surtout que les promesses n'ont pas été tenues. Écoutez Elmer, un habitant rencontré par notre correspondante à Nuevo Mundo.
Justement, on n'a pas d'eau. Parfois, on en pompe, mais souvent, on n'en a pas. On se baigne dans le fleuve, on prend de l'eau des rivières, on la fait bouillir pour préparer le masato et pour la boire. Celle du puits d'en haut, on ne la boit pas. L'eau est plus propre en bas. Ici, je n'ai pas le gaz, ça coûte cher. On cuisine au feu de bois, c'est moins cher que le gaz. On a juste à couper du bois, à l'apporter ici et on peut cuisiner. Avant, on n'avait pas de fusil, que des flèches pour chasser. On pêchait. Maintenant que la zone s'est peuplée, il n'y a plus de poissons, c'est terminé.
Un témoignage à écouter dans le grand reportage de notre correspondante Juliette Chénion, tout à l'heure à 19h40, temps universel. Cette exploitation gazière, elle fait l'objet de recherches menées par nos confrères de France 24 et par le média d'investigation Disclose. RFI s'y est associé. D'ailleurs, vous pouvez lire sur notre site une série d'articles intitulés « La ruée vers le gaz ». L'objectif de ces recherches, c'était de comprendre le fonctionnement de ce site gazier et l'implication de banques françaises dans le secteur. Résumé avec le journaliste Alexander Abdelila. Il est en ligne avec Stéphanie Schuller.
Bonjour Alexander Abdelila.
Bonjour.
Comme notre collègue Juliette Chénion, vous vous êtes rendue sur le site de Camisea. Alors on le disait, le gisement est situé en plein milieu de l'Amazonie péruvienne. Est-ce que l'impact de l'extraction gazière sur cet écosystème fragile est contrôlé? Et si oui, par qui?
Alors oui, en théorie, il y a des agences gouvernementales qui sont chargées du contrôle environnemental, qui sont basées à Lima, donc assez loin des sites d'exploitation. Et puis, il y a sur place des structures dont la nature nous a surpris. En fait, ce sont des structures type associatives, mais financées en fait par les entreprises qu'elles sont censées contrôler. Et elles sont constituées de quelques moniteurs environnementaux, comme ils les appellent, donc des personnes qui sont rémunérées par les entreprises et qui se déplacent sur les forages pour vérifier que tout va bien, vérifier qu'il n'y a pas de pollution, de fuite. Et en cas de problème, elles en réfèrent en fait directement à l'entreprise qui doit résoudre le problème. Donc c'est quelque chose en vase clos, on est vraiment sur de l'autocontrôle et dans ce cas-là même autofinancé.
Durant vos recherches, vous avez découvert que les banques françaises jouent un rôle dans le financement de Repsol, lequel ?
Oui, alors le premier rôle qu'elle joue, c'est un rôle qui était pas mal documenté par les ONG, c'est-à-dire là on parle d'accorder des prêts à Repsol, aider Repsol à émettre ce qu'on appelle des obligations, donc c'est en fait des levées de fonds. Mais nous, on a voulu regarder de plus près un aspect qui sont les investissements de ces groupes bancaires français. Donc quand je dis investissement, je parle d'achat d'actions de Repsol ou de ses obligations. Et en fait, ce sont des investissements qui rapportent aux groupes bancaires de l'argent. Et donc, en quelque sorte, ça représente pour nous et pour les ONG qui s'intéressent au sujet une contradiction. C'est-à-dire d'un côté, les groupes bancaires français communiquent beaucoup sur le climat, la volonté d'avoir une transition écologique, économique juste. Et de l'autre, ils continuent d'encaisser des dividendes et des intérêts, on parle de dizaines de millions d'euros, de la part d'entreprises qui, elles, contribuent à abîmer l'Amazonie. Donc c'est vraiment une contradiction et c'est ça qu'on a voulu mettre en lumière.
Alors, il n'y a pas seulement les revenus des activités de Repsol qui reviennent d'une certaine façon en France via les banques françaises et leurs filiales d'investissement, mais aussi du gaz qui vient de Camisea, donc de ce site, de ce gisement en fait en plein cœur de l'Amazonie. Le gaz arrive en partie en France.
Oui, tout à fait. On a vu que ces dernières années, il y a des cargos en fait chargés de ce gaz, mais sous forme liquéfiée, qui est arrivé en France. Il y a eu en 2024, d'après les données douanières, il y a eu au moins 3 cargos qui ont été livrés en France, qui représentent plusieurs centaines de milliers de tonnes. Et le client de ces cargos était Total Energy.
Alexander Abdelila, journaliste au sein du média d'investigation Disclose. Il répondait à Stéphanie Schuller.
Le journal de l'Outre-mer.
Et on vous retrouve, Benoît Ferrand. Un an après sa signature, le contrat territorial de prévention et de sécurité a fait l'objet hier d'une première évaluation en Martinique.
Les représentants de l'État et des collectivités locales ont fait le point sur la délinquance, sur la lutte contre la délinquance et le trafic de stupéfiants. Écoutez à ce sujet l'avis autorisé du président de l'Association des maires de la Martinique, Justin Pamphile. Il est au micro d'Alain Livory.
Nous avons besoin d'avoir des moyens et en l'occurrence, quand on aborde la question de l'équipement de la police municipale, mais pas simplement au sens de la sécurité, quand la CAF intervient sur la question des espaces de vie sociale, on a besoin d'avoir des moyens nous permettant de mettre des éducateurs au devant des personnes qui sont potentiellement susceptibles de vriller et faire que, bien que le travail de prévention se fasse, le travail de sécurisation également du territoire se fasse et éviter que les personnes grandissant, eh bien, qu'on puisse les retrouver dans des faits de délinquance beaucoup plus graves. C'est aussi ça le rôle d'une ville. Maintenant, il y a des choses qui nous dépassent. Le narcotrafic, les 35 tonnes de cocaïne qui ont été saisies montrent qu'il y a une urgence à accentuer ce travail de contrôle périmétrique de l'île pour éviter justement que l'on soit dans une criminalité galopante et qui va devenir demain matin quelque chose de catastrophique pour le pays Martinique.
Justin Pamphile, président de l'Association des maires de la Martinique. Direction la partie française de Saint-Martin, qui a soif. La grève des employés de la Société d'aménagement urbain et rural, la SOR. Grève débutée le 23 décembre dernier, impacte la distribution d'eau potable sur le territoire de Saint-Martin. Situation jugée inadmissible par le patronat local, Jesse Blanquet.
Les chefs d'entreprise de Saint-Martin sont en colère et déposent 2 plaintes à cause du manque d'eau. Une plainte relative aux dégradations d'ouvrages publics destinés à recevoir ou conduire des eaux pour l'alimentation humaine et l'autre pour mise en danger d'autrui. Pour rappel, des agents de SOR, principalement responsables de la production et distribution de l'eau, ont entamé un mouvement de grève illimité sous l'égide de l'UGTG Guadeloupe. Un blocage que condamne fermement le MEDEF Saint-Martin, impactant directement les usagers et mettant en danger la population sur le plan de la santé et de la salubrité publique. Pour cette organisation patronale, la situation est jugée irresponsable et inappropriée, surtout en cette période de forte affluence touristique. Pour l'heure, la production et la distribution d'eau potable à Saint-Martin ont été rétablies. Pour autant, l'usine de Galisbé reste sous surveillance par la gendarmerie pour prévenir tout incident. Une rencontre entre la direction générale de la SOR et les grévistes est prévue le 9 janvier prochain.
Le 9 janvier prochain, c'est-à-dire aujourd'hui. Bon après-midi, Anne. À demain.
À demain, Benoît Ferrand. Merci à tous d'avoir été avec nous. RFI Midi, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve demain, 11h30, temps universel.
RFI, la sélection du mois.
Orchestra Baobab et Idrissa Diop.
c'est foncé, ils me disent d'arrêter d'y penser.
Andéol.
Ces temps-ci, après minuit, je dis rien de compréhensible. Le compte bancaire dans le rouge, mais genre vraiment très foncé. Comme ton rouge à lèvres, c'était peut-être un signe.
RFI Musique.
Tout à l'heure sur RFI.
C'est pas du vent. Anne-Cécile Bras.
La consommation de gaz naturel est en constante augmentation alors que c'est une énergie fossile. Pour ses défenseurs, notamment les banques, qui soutiennent de nombreux projets, le gaz est nécessaire à la transition. Pour ses détracteurs, c'est climaticide. Nous faisons le point avec nos invités.
C'est pas du vent. Anne-Cécile Bras.
Du mercredi au vendredi à partir de 4h.